Allons ouvrir notre Bible dans le psaume 66. Psaume 66. Pour en lire trois versets. Les versets 10, 11 et 12 de ce psaume 66. Ce sera notre première lecture. Psaume 66, versets 10 à 12. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Nous allons maintenant vers la première épître de Pierre, vers la fin donc du Nouveau Testament. Premier épître de Pierre, pour en lire quelques extraits directement en rapport avec ce que nous allons partager. Tout d'abord, au chapitre 1er, nous lisons les versets 6 à 9 qui ont fait l'objet d'une partie de notre réflexion hier soir. Premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 6 à 9, où l'apôtre Pierre, après avoir brossé de manière très concentrée, synthétique, mais très lumineuse aussi, le salut qui était l'apanage, le don gratuit de Dieu au lecteur de cet épître, ajoute, c'est là, ce salut, ce si grand salut, ce si beau salut qui nous a tant occupés depuis avant-hier soir, c'est là ce qui vous fait jubiler, ce qui vous fait tressaillir d'allégresse, ce qui vous fait exulter. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves variées, afin que la mise à l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Un peu plus loin, chapitre 2, à partir du verset 18. De 18, domestique ou gens de maison. Littéralement. Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, oh, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont une scoliose du caractère. C'est le texte grec, hein, je le traduis tel quel. Car c'est une grâce de supporter ou d'endurer des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous endurez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, mal traité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Femme, que chacune de même soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et puis enfin, au chapitre 5, dernier chapitre de cette épître, le verset 8. Verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, endurées, accomplies en vos frères, dans la communauté de vos frères, dans le monde. Nous n'allons pas passer du temps, quoique je l'aurais souhaité. Nous n'allons pas passer du temps à résumer les deux précédentes soirées. Je renvoie les frères et sœurs qui nous rejoignent aux cassettes enregistrées, même si les cassettes ne sauraient en aucun cas remplacer la communion fraternelle. Il m'arrive souvent de dire que écouter un message sur cassette, ce qui peut être légitime, ce qui se conçoit aisément, ce qui peut appartenir au plan de Dieu, est pourtant comme si j'embrassais ma femme chaque matin à travers une vitre. Est-ce que nous nous comprenons? Rien ne saurait remplacer les dimensions de la communion fraternelle, ces relations toutes particulières les uns avec les autres. Toute autre formule n'est qu'un ersatz de la communion fraternelle. Et il en est donc ainsi aussi de l'utilisation, de l'usage des cassettes, légitimes dans certains cas, beaucoup moins dans d'autres. Elles ne sauraient remplacer notre communion les uns avec les autres. Mais néanmoins, je me vois obligé de faire cette publicité pour que les amis qui n'étaient pas là ces soirs passés puissent pleinement bénéficier de tout ce que nous avons déjà partagé. Et cela me permet de gagner un peu de temps. La seule chose que je redirais dans l'introduction à notre étude, c'est que nous avons terminé notre réflexion d'hier soir en soulignant très fortement, parce que Dieu le fait dans cette première épître de Pierre, en soulignant très fortement que la souffrance du disciple de Jésus-Christ dans ce monde hostile fait partie du programme de la vie chrétienne. C'est là la condition normale de l'Église de Jésus-Christ. Et nous avons relevé dans cette première épître de Pierre six passages hier soir qui enfonce le clou. L'un après l'autre. Nous avons relu en introduction, il y a un instant, le premier de ces six passages, lorsqu'il est dit dans le verset 6 du chapitre 1er, « Puisqu'il le faut. » Puisqu'il le faut. Nous ne sommes pas dans un petit cocon. Nous ne sommes pas enfermés dans une bulle avec un air parfaitement pur. Nous ne sommes pas protégés des pollutions de ce monde. Nous sommes, nous, disciples de Jésus-Christ, solidaires de ce monde. Et nous subissons, d'une manière toute particulière, à cause de notre statut de disciple de Christ, aussi l'hostilité de la plupart de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ceci pour dire que nous sommes invités par le Seigneur à avoir un juste regard sur la souffrance. Et j'aimerais plaider de la part de Dieu durant ces moments, ce matin, cet après-midi, pour que précisément notre regard sur les circonstances difficiles qui peuvent être les nôtres, et je peux imaginer combien simplement le modeste auditoire que nous représentons ici comporte de circonstances difficiles, de combats douloureux, de pourquoi, de souffrances cachées, que ce soit dans le domaine de l'hostilité précisément de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ou que ce soit dans le domaine des circonstances de la vie, au niveau de notre santé, au niveau de notre emploi, au niveau de notre vie familiale, que sais-je encore. Faut-il préciser, nous l'avons fait hier soir, que si la souffrance est inscrite au programme de la volonté de Dieu dans nos vies à chacun, la première épître de Pierre précise qu'il est toutefois des souffrances que nous devrions chercher absolument à éviter. Ce sont les souffrances liées à nos péchés. Oh, si quelqu'un souffre comme voleur, comme malfaiteur, comme menteur, qu'il ne s'en glorifie pas, mais plutôt qu'il revienne à la croix pour plaider coupable, pour réparer, pour reprendre une marche de restauration, de reconstruction, de normalisation avec son Seigneur et Sauveur. Alors seulement, lorsqu'il aura fait sérieusement le point au pied de la croix, ses souffrances consécutives au désordre volontaire de sa vie commenceront à être utilisées par Dieu et à devenir fécondes. Ça, nous l'avons appelé hier soir l'alchimie extraordinaire de l'amour de Dieu. Nous ne comprenons pas comment il se fait que Dieu, dans sa grâce, lorsque le pardon est intervenu sur la base de ce changement de mentalité vis-à-vis de notre conduite, comment il se fait qu'il puisse transformer les souffrances consécutives aux péchés pardonnés en joyaux extraordinaires pour nous aider dans notre croissance personnelle et dans notre témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Ça, c'est un miracle extraordinaire de notre Dieu. J'ai parlé de joyaux. Je ne sais si vous avez porté, en entrant dans cette salle, vos regards sur la rivière de diamants qui est au cou de ma chère épouse. L'avez-vous fait? Ne cherchez pas mon épouse. Elle est ici, certes, mais je voudrais vous éviter un torticolis inutile, puisqu'elle n'a pas de rivière de diamants autour du cou. Et c'est pourquoi ce que je vais vous dire, je ne l'ai jamais expérimenté. mais je me fie à l'expérience de ceux et celles qui ont et qui ont eu des diamants et qui ont désiré pouvoir faire la différence entre un vrai diamant et un faux diamant. Et j'ai appris de cette manière qu'une des méthodes les plus simples, les moins sophistiquées, les plus faciles à pratiquer par quiconque d'entre nous pour discerner un vrai diamant d'un faux, c'est de plonger la pierre en question dans l'eau. Sous l'eau, le faux diamant cesse de scintiller. Mais le vrai diamant continue à scintiller sous l'eau. C'est là une parabole de la vie. Le vrai disciple de Jésus-Christ dans un monde hostile continue à scintiller lorsqu'il passe par les grandes eaux des circonstances difficiles. Celui qui n'a de chrétien que le nom, qu'une réputation formelle et traditionnelle, cesse de scintiller lorsque les cyclones, les tourmentes, les typhons, les lames de fond de la souffrance s'attaquent à sa vie personnelle. Le diamant est riche d'autres significations. Il l'est d'ailleurs à tel point que l'un de mes livres, qui est épuisé maintenant depuis près d'une année, Fidèle quoi qu'il en coûte, comporte un diamant, précisément à cause de ses diverses significations. Quelle est la définition en accord avec le monde scientifique, mais sans utiliser un langage scientifique, quelle est la définition la meilleure que l'on puisse donner du diamant? Quelqu'un a dit tout simplement que le diamant était un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. C'est un morceau de charbon qui a souffert, qui a subi des pressions. Il est intéressant de voir que dans les Écritures, le mot pression, souvent rendu par tribulation ou persécution, est un mot grec qui a ce premier sens de pression. Le diamant est un morceau de charbon qui a fait son chemin sous la contrainte. Voulons-nous, vous et moi, devenir des morceaux de charbon transformés en diamants? Ça, c'est la grande question. Appelés dans un monde hostile, appelés à devenir un diamant. Un diamant dont sera sertie un jour la couronne du roi des rois et du seigneur des seigneurs, lorsque nous nous tiendrons dans sa présence, dans un corps de résurrection, et le verrons face à face. Il y a dans l'Ancien Testament une histoire qui illustre remarquablement ce que nous sommes en train de développer. C'est une histoire qui occupe, en tout cas, au moins 13 chapitres. Elle va du chapitre 18 du premier livre de Samuel à la fin de ce premier livre, c'est-à-dire au chapitre 30. Et si j'étais metteur en scène, je me serais fait un plaisir de réaliser un film sur ces 13 chapitres, un magnifique film à suspense, avec une merveilleuse conclusion. Et j'aurais intitulé ce film « La guerre des deux trônes ». La guerre des deux trônes parce que pendant une bonne dizaine d'années, deux trônes vont s'opposer. Un trône encore légitime, celui sur lequel est monté le premier roi d'Israël, Saül. Un trône encore potentiel à venir. Le futur roi a déjà été oint une première fois de la main de Samuel, le dernier juge, sur l'ordre de l'Éternel. Mais il est encore trop jeune pour régner. Il a peut-être 16, 17, 18 ans, 20 ans tout au plus. Il faut donc qu'il passe par un chemin de construction, d'édification, de dépouillement, par un chemin difficile qui va permettre au règne potentiel de devenir un règne effectif. Ce roi en puissance doit passer par la vallée de l'hostilité, des larmes, de la souffrance, pour pouvoir un jour monter sur le trône et être aussi plus tard appelé, ou disons, amené le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, a évoqué David en parlant de sa propre personne. Le Seigneur Jésus, le Fils de David, le Seigneur de David. 10 années, 12 années difficiles, peut-être une dizaine de tentatives d'assassinat durant cette période. Et pendant une bonne dizaine d'années, nous allons avoir affaire à la lutte du roi selon la chair, c'est-à-dire selon notre cœur naturel, tout ce qui monte en nous et qui d'ailleurs très souvent nous dérange. Lutte du roi selon la chair, selon le cœur des hommes, du roi déchu, du roi avec lequel Dieu n'est plus d'accord, du roi orgueilleux, contre le roi selon le cœur de Dieu. Lutte de la chair contre l'esprit. Et Saül, le charnel, va lutter à mort contre ce qui est spirituel en David. Et nous allons assister dans ces chapitres 18 à 30 à une sorte de crescendo, d'une haine de plus en plus épouvantable de Saül à l'endroit de David, le futur roi. Si je vais au chapitre 18, au verset 8, à la suite d'un sondage de popularité, parce qu'on en faisait déjà à l'époque sur les champs de bataille, il est dit au verset 7, « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », ça ne peut pas plaire au président de la République en place. Aussi est-il dit au verset 8 que Saül, le roi, fut très irrité, cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Verset 15, Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Et enfin, verset 29 du chapitre 18, Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Temps extrêmement difficile pour David. Et nous avons dans 1 Samuel 18 à 30 une sorte d'illustration bien à l'avance de grands textes de doctrine du Nouveau Testament. Je pense à Romains 8, verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est cela. La lutte de Saül, le roi déchu, contre David, le roi selon le cœur de Dieu. Une question se pose. Qui se cache derrière Saül? C'est une question importante. Et pendant des années, dans ma lecture et relecture continuelle de ces passages, le premier mot qui jaillissait dans mon esprit en réponse à cette question était très simple. Bien entendu, c'est Satan. C'est Satan qui se dresse contre David et qui est là à l'œuvre à partir de Saül. Et c'est vrai. Le but de la puissance des ténèbres est manifestement d'éliminer David. Il faut absolument que David fasse une faute qui le disqualifie à jamais. Il faut absolument briser cette chaîne de la lignée élue qui conduit à Jésus-Christ. Parce que David est un des maillons fondamentaux de cette chaîne particulièrement stratégique qui conduit à l'avènement du Fils de Dieu, à son incarnation au milieu des hommes. Béni soit le jour où j'ai compris dans mon cœur, et non seulement avec ma tête, qu'en réalité, le personnage principal, invisible, à l'œuvre, dans cette terrifiante confrontation, n'était pas Satan. Mais en réalité, était Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'origine première. Satan est en réalité l'instrument de Dieu. Non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair, pour former peu à peu en David l'homme spirituel, ce roi qui va jouer un si grand rôle dans l'histoire du peuple de Dieu. Et en réalité, puisque Saül ne peut plus servir Dieu librement, avec joie, pour l'accomplissement de son plan, il le servira malgré lui. Il servira quand même à quelque chose dans le plan de Dieu, au sein même de sa déchéance progressive, parce que c'est là dans les Écritures une des nombreuses démonstrations de la parfaite souveraineté de Dieu. Dieu se sert de Saül, le charnel, et il se sert de Saül, le charnel, pour combattre le Saül qui est tapi au fond du cœur de David. Parce qu'il y a aussi quelque chose de Saül dans le cœur de David, il y a quelque chose de Saül dans chacun de nos cœurs. Il y a dans chacune de nos vies des comportements qui ressemblent étrangement au comportement de Saül. Il y a à certains moments de nos vies des comportements de jalousie, de haine, de colère et combien d'autres qui ressemblent étrangement à ceux de Saül. Il y a eu dans le cœur de David des comportements et dans l'attitude de David des comportements qui ressemblaient parfois étrangement à ceux de Saül. Mais il y avait dans le cœur de David un désir de droiture, d'intégrité, un désir d'aimer Dieu, d'être passionné de lui, de le mettre au premier plan dans sa vie. Et Dieu s'est donc servi de Saül pour combattre le Saül qui était tapi au fond de son cœur. Alors vous me dites, mais, chers frères, est-ce que vous n'êtes pas en train simplement de faire un petit peu de broderie avec les Écritures? Est-ce que vous n'abusez pas des Écritures pour oser nous raconter de telles choses? Je ne l'oserais si la Bible ne l'affirmait. Et nous avons des preuves. Dans 1 Samuel au chapitre 16, alors que l'onction du jeune David vient d'avoir lieu à Bethléem, il nous est dit au verset 13 que juste après cette onction, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Quant à Samuel, lui, il se leva et il s'en alla à Rama. Puis intervient dans les versets 14 un passage assez particulier. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Satan. J'entends des murmures. Merci pour la précision. Elle est d'importance. Ce qui nous montre que nous avons parfaitement raison de suivre la lecture dans nos Bibles. Je relis le texte. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le texte hébreu est encore plus court, par un mauvais esprit de l'Éternel. On a ajouté « venant de » pour préciser la chose. Alors vous me dites « oh, c'est peut-être un problème de copiste ». Il se pourrait que le copiste qui a rédigé ce texte, qu'il a recopié dans un nouveau rouleau, ait été amoureux et qu'il ait à ce moment-là pensé à sa dulcinée. Alors sa plume a quelque peu dérapé. Et c'est parce que nous sommes tentés par ce genre de raisonnement. Parce qu'il y a là quelque chose qui heurte notre conception. Dans ce domaine, il est dit au verset 15, les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Décidément, ce copiste devait être terriblement amoureux pour faire la même faute de copie une deuxième fois. Et je dis une deuxième fois et non une seconde fois, parce qu'il y en a une troisième, dans le même texte, et pas à 2 kilomètres de là dans le texte, mais immédiatement ensuite, verset 16, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, tu seras soulagé. Alors là, nous ne croyons plus à l'amour qui a conduit ce copiste à planer. Mais nous croyons plutôt qu'il s'agit dans les Écritures et dans l'approche linguistique hébraïque, en quelque sorte, du texte, de ce que l'on pourrait appeler un superlatif par excellence, parce que c'est ainsi que dans le monde hébreu, on pratiquait le superlatif par excellence. Quand on voulait dire que quelque chose était absolument extraordinaire, on disait la chose deux fois. Et vous avez ainsi dans les Écritures quantité de vérités qui sont répétées deux fois. On le retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament, lorsqu'à diverses reprises, Jésus va dire « en vérité, je vous le dis. Amen, amen. » Cela signifie que la vérité que Jésus va communiquer est une vérité d'importance capitale. Il la répète. En vérité, en vérité. Nous la trouvons dans l'Ancien Testament, dans certains songes, par exemple, de Pharaon, ou dans certains songes de Joseph, qui sont volontairement répétés deux fois. Quand Dieu se répète, c'est que le message est d'importance. Mais mes amis, chez les Hébreux, quand une vérité est encore plus importante que le superlatif ordinaire le signifie, elle est répétée 3 fois. Alors là, mes amis, vous n'avez pas intérêt à essayer de jouer avec cette vérité. Elle est incontournable. Elle est solennelle. Et nous avons donc dans ce texte une vérité d'importance absolument capitale parce qu'à 3 reprises, il est dit que ce mauvais esprit venait de l'Éternel. Et si nous n'étions pas encore convaincus de la chose, qu'il nous suffise de savoir que cette expression ne revient pas, tenez-vous bien, 3 fois dans ces versets et dans ces chapitres, mais 6 fois. 2 fois 3. Tant elle est importante au regard de Dieu. Vous savez, les figures de style, Dieu s'en moque. Les répétitions, Dieu s'en moque. Dieu est d'abord un pédagogue. Et s'il faut qu'il parle de travers, pardon de le dire, en ne respectant pas certaines règles de la stylistique, il le fait. L'essentiel, c'est que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Donc ce mauvais esprit venait bien de l'Éternel, puisque cela sera répété, je vous le dis au passage, au verset 23 du chapitre 16 toujours, lorsque le mauvais esprit venant de Dieu, mais aussi au chapitre 18, verset 10, et au chapitre 19, verset 9. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, bien entendu, que Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans la permission de Dieu. Que Dieu est parfaitement souverain dans ce monde hostile, souverain et ayant absolue autorité sur la puissance des ténèbres. Et ce mauvais esprit était donc autorisé directement par Dieu à s'emparer de Saül comme jugement. Mais en même temps, comme moyen de transformation du morceau de charbon qu'était le jeune David en diamant, pour qu'un jour le Seigneur Jésus puisse s'appeler Fils et Seigneur de David. Il n'y a là rien d'exceptionnel dans les Écritures. Nous avons plusieurs autres exemples de la même veine, je n'en prendrai qu'un. Si nous prenons le premier livre des Chroniques, c'est-à-dire au-delà de 1, 2 Samuel, 1, 2 Rois, vous avez le premier livre des Chroniques, et vous allez jusqu'au chapitre 21. Ce chapitre 21 qui raconte un des drames de la vie d'Israël sous le règne de David. Au sommet de la royauté et de la gloire pour David et son royaume. Un dénombrement, militaire, et les dénombrements, notamment militaires, obéissaient en Israël à l'ordre express de Dieu. L'on n'avait pas le droit de faire de dénombrement militaire quand on en avait envie. Si on le faisait quand on en avait envie, cela sous-entendait qu'il y avait à quelque part un orgueil qui désirait mesurer son potentiel. Et le texte est introduit par ce verset premier que nous lisons. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous remarquez, vous avez le terme Satan, il prend l'initiative et il est précisé que c'est donc lui qui excite David à faire le dénombrement d'Israël. Nous avons un texte équivalent dans le deuxième livre de Samuel, donc vous revenez un peu en arrière, au chapitre 24 et au verset 1er. C'est la même histoire. C'est la même histoire, mais il vaut la peine de lire les deux récits parce qu'ils sont complémentaires. Et le récit de 2 Samuel 24 commence au verset 1er par cette expression « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Contradiction. S'écrieront les détracteurs des Écritures. Contradiction. La Bible est un tissu de contradictions. Mais hélas, ils sont de mauvais lecteurs. Ils ne comprennent pas les Écritures, parce qu'ils refusent le droit au Saint-Esprit d'illuminer les Écritures. S'ils laissaient le Saint-Esprit illuminer pour eux les Écritures, ils comprendraient que ces deux textes sont complémentaires. Et nous avons tout simplement, dans le premier de ces deux textes, deux chroniques, ou 1 chronique 21, nous avons l'instrument de l'excitation. Celui qui est utilisé par Dieu, qui est à l'origine première. Dieu a dit à la puissance des ténèbres, vas-y, je te donne l'autorisation. Même verbe, excité, mais deux personnages, celui qui est à l'origine première, et celui qui l'utilise, Dieu et Satan, qui est utilisé dans son plan. Ceux d'entre nous qui connaissent suffisamment les Écritures savent que tout le début du livre de Job va lui aussi dans la direction de notre message. Tirons-en une conclusion qui nous permet, dans une dernière courte partie, d'actualiser. Si nous comprenons bien ces textes, c'est avec la permission de Dieu, sous son contrôle constant, qu'un mauvais esprit va se dresser par Saül contre David pour sa formation en vue du règne. Et à l'heure prévue par Dieu, lorsque la formation de base de David sera terminé, Saül mourra. Mais pas avant. Dieu contrôle de manière extraordinaire tout le contenu de ces chapitres 16 à 30, comme nous pourrions le constater par une étude beaucoup plus attentive. Il nous faut donc actualiser. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous et moi, appelés par Dieu à le servir dans un monde hostile. Si je comprends bien, là aussi, nous dirons que Dieu s'est servi d'un lunatique, appelons-le ainsi, en langage moderne, Saül, lié par un esprit malin. Dieu s'est servi d'un être particulièrement impulsif, terriblement versatile, rongé par la gangrène d'un orgueil de plus en plus insatiable. Dieu s'est servi d'un mélancolique coléreux qui avait manifestement ce qu'on appelle les symptômes d'une psychose maniaque dépressive, mais qui était d'origine démoniaque. Toutes ne le sont pas. Mais celle-ci l'était. Dieu s'est servi de cet homme-là. Rendez-vous compte. Quel tableau clinique venons-nous de faire? Quel tableau de caractère venons-nous de faire? Dieu s'est servi de cet homme-là pour développer dans le fils, disons en David, le caractère du fils de David. Et il y a dans ces chapitres 18 à 30 du premier livre de Samuel des chapitres qui seraient dignes de figurer dans le Nouveau Testament. Je veux parler des chapitres 24 à 26. Comment, dans l'ancienne alliance, 1000 ans avant Jésus-Christ, nous voyons Dieu façonner, développer en David ce qui est appelé dans le Nouveau Testament le fruit de l'Esprit. L'apprentissage du pardon. L'apprentissage de la générosité de cœur. Le refus de la vengeance. Il y a des accents néo-testamentaires dans ces chapitres 24 à 26. Dieu se sert donc d'un patron qui a une scoliose du caractère pour me former. C'est ce qui est dit dans 1 Pierre 2, verset 18. Dieu se sert d'un patron qui a une scoliose du caractère pour nous former. Ayant dû interrompre mes études pendant 2 années à cause de graves problèmes de santé, le maire de la petite ville de 10 000 habitants à la frontière du Luxembourg où j'habitais m'a embauché pour faire un travail de relations humaines et de secrétariat dans la mairie de cette ville, j'étais très reconnaissant. Sauf pour une chose. J'étais très reconnaissant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais tous les vendredis, je commençais à éprouver des crampes au niveau de mon estomac ou de mon sympathique qui allaient s'accentuant jusqu'au samedi matin, à l'heure où monsieur le maire réunissait une petite équipe de travail pour faire le point sur le programme de la semaine écoulée et pour préparer celui de la semaine suivante. Je faisais partie de cette équipe. Et nous avions tous une frousse bleue de cette séance de travail. Pourquoi ? Parce que monsieur le maire, il avait un caractère tordu. Oh là là ! Ses colères, je m'en souviendrai toute ma vie. La manière qu'il avait de vous clouer au pilori devant tout le monde, et parfois terriblement injustement, je m'en souviendrai aussi toute ma vie. Mais Dieu m'a dit, parce que je lui appartenais à cette époque, et je savais que j'allais le servir d'une manière toute particulière, c'était une interruption dans ma formation, cela faisait partie de ma formation. Dieu m'a dit, tu vois, je te sers de monsieur le maire, je me sers de monsieur le maire pour te former. De ce maire au caractère complètement scoliotique, tordu. C'est de lui que je me sers. Dieu se sert d'un voisin de chambre impossible. Sur le campus, église locale, Dieu se sert d'un conjoint non converti à lui. 1 Pierre 3, verset 1 et suivant. La situation d'une épouse. Ils se sont mariés tous les deux sans connaître le Christ. Et puis, une fois mariée, elle a rencontré le Christ vivant. Elle a été gagnée. Elle aime son Seigneur. Et bien sûr, elle veut tout faire pour gagner son cher mari. Et elle souffre comme un conjoint converti peut souffrir lorsque l'époux ou l'épouse ne veut pas de ce Dieu sauveur et Seigneur. Eh bien, disons-le, avec une certaine souffrance, parce que je pense à ceux et celles parmi nous qui connaissent peut-être cette situation. Je le disais hier, j'ai vu tant de larmes. Je me souviens quand pendant une dizaine d'années, j'étais pasteur d'une église en Bretagne, dans les côtes d'Armor. Chaque fois qu'une sœur en particulier venait le dimanche matin pour le culte, immanquablement, j'étais sûr à la sortie, lorsque nous allions nous serrer la main, et que j'allais la regarder dans les yeux, j'y verrais des larmes couler le long des joues. Et je savais pourquoi. Tout simplement parce que depuis des années et des années, elle essayait de conduire à Jésus-Christ un mari qui lui en faisait voir de toutes les couleurs. Mais elle était d'autant plus malheureuse qu'elle s'était mariée avec un non-croyant alors qu'elle connaissait déjà le Seigneur et qu'elle avait été avertie par les conducteurs de l'église locale. Cela faisait 20 ou 30 ans que cela durait. Donc je ne saurais un seul instant parler à la légère des souffrances que peut connaître un conjoint dont l'autre, l'époux ou l'épouse, ne connaît pas encore Jésus-Christ. Mais pourtant je me dois de le dire parce que cela fait partie de ce programme de la première épître de Pierre. Dieu se sert du conjoint non converti pour façonner, à partir de ce morceau de charbon mis sous une extrême pression parfois, le merveilleux diamant qu'il veut faire de chacune de nos vies. Je pense à
ce qu'écrivait un homme de Dieu il y a quelques siècles en arrière. En réponse à cette remarque, mon conjoint se conduit de mal en pis. J'attendais le miel et voici le dard. Oui, écrit-il. Il est triste de voir unis la vie et la mort. Cependant, ne laissez pas le mécontentement agiter votre cœur. Affligez-vous des péchés de l'homme, mais ne murmurez pas contre Dieu. C'est lui qui l'a placé auprès de vous. Et vous ne pouvez pas laisser entrer le mécontentement sans vous quereller avec Dieu lui-même. Quoi ? Mettrions-nous sa sagesse en question à cause de chaque épreuve qui nous touche ? Oh, le blasphème de notre cœur ! Dieu peut vous bénir au travers du péché de ce conjoint. Peut-être n'auriez-vous pas acquis autant de bonté s'il avait été aussi mauvais. Le feu brûle avec plus de chaleur au milieu du froid. Par un mystérieux échange, Dieu transforme souvent les péchés d'autrui en notre bien et fait de leur maladie notre médicament. Plus le mari est profane et terrestre, et plus la femme grandit dans la sainteté et vers le céleste. Dieu donne parfois au mari, au péché du mari, de servir d'aiguillon à la grâce de sa femme. Les excès de l'un servent de soufflet pour attiser la flamme du zèle et de la dévotion de l'autre. N'en est-il pas ainsi dans l'expérience ? La méchanceté de votre conjoint ne vous pousse-t-elle pas à la prière ? Vous n'auriez peut-être pas prié beaucoup s'il n'avait pas autant péché. L'œuvre de la mort en lui développe la vie en vous, et la dureté de son cœur de pierre est le marteau qui brise le vôtre. L'apôtre Paul dit « La femme non croyante est sanctifiée par le mari. » Mais dans ce sens, l'époux croyant aussi est sanctifié par son conjoint non croyant. Il grandit dans la grâce, car le péché de l'autre lui sert de pierre à aiguiser et de médicament. Eh oui, Dieu se sert de toutes ces situations difficiles que nous pouvons connaître. Et nous pourrions parler de toutes ces situations difficiles dans le domaine de nos santé et d'autres circonstances pour traiter l'hippopotame moi, pour nous faire perdre nos illusions sur nous-mêmes, afin que notre règne disparaisse et que son règne vienne dans nos vies. Oh combien je comprends cette parole de ce théologien protestant et résistant allemand pendant la dernière guerre, Dietrich Bonhoeffer, qui à cause de sa fidélité aux Écritures, même si l'on ne peut pas être d'accord avec toute sa théologie, a été pendu à quelques encablures de la fin de cette dernière guerre par les nazis, et qui écrivait cette parole fulgurante: quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs ». Devenir disciple de Jésus-Christ, c'est venir et mourir. Car si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Quelqu'un d'autre de dire, il ne peut y avoir de croissance spirituelle qu'à travers la mort à soi. Chaque pas sur le chemin du progrès spirituel sera marqué par les empreintes sanglantes de l'amour propre blessé. Et chers amis, nous avons besoin les uns des autres pour être crucifiés. Si notre crucifixion est un fait juridique accompli une fois pour toutes sur la croix, il doit entrer dans les faits pendant notre vie de disciple de Jésus-Christ sur la terre. Or, nous avons un problème. C'est que vous et moi, nous sommes parfaitement incapables de nous crucifier nous-mêmes. Je n'ai jamais connu au travers de l'histoire un martyrisé par la crucifixion, dire aux soldats qui lui plantaient les clous, « Laissez, je vais terminer moi-même. » Parce que c'est tout simplement impossible. Voilà pourquoi nous avons besoin de frère Marteau et de sœur Clou pour nous crucifier. Oui, nous avons besoin de frère Marteau et de sœur Clou, de frère Clou et de sœur Marteau, si vous préférez, peu importe. J'ai été très frappé. C'était le 29 juin 1986, sur ce qui était à l'époque Antenne 2, aux informations du soir. J'ai été très frappé par cette remarque du commentateur d'un événement assez particulier qui disait « Il y a dans la vie des épreuves qui vous marquent, mais qui vous grandissent quand vous les surmontez. » Et il faisait allusion à un événement qui venait d'avoir lieu dans la même journée ou quelque temps auparavant au musée de la Légion d'honneur à Paris, où un portrait avait reçu un coup de couteau parce qu'une bande de délinquants était venue dans ce musée pour y faire des dégâts. Et suite à ce coup de couteau dans ce portrait, le portrait fut radiographié en vue de sa réparation. Et lors de cette radiographie, on vit apparaître, derrière le portrait visible de tous, un autre visage plus âgé. Et c'est ainsi que l'on décida de faire disparaître le portrait classique et connu de tous, pour faire réapparaître le portrait original, qui est toujours maintenant dans la vitrine de ce musée. Quelle illustration de ces coups de couteau que nous devons, vous et moi, recevoir par les circonstances de la vie, même par les êtres, parfois par les êtres qui peuvent nous être les plus chers, mais qui permettent, au-delà de nos visages de façade et de péché, au travers des radiographies du Seigneur, de laisser apparaître non pas un visage plus vieux, mais la beauté du visage et du caractère du Seigneur Jésus lui-même. Appelé dans un monde hostile, appelé à souffrir, appelé souvent à souffrir, comme on le dit, injustement, mais en acceptant de voir dans nos souffrances, pas toujours le diable, mais derrière, parfois, la puissance des ténèbres à l'œuvre, à laquelle nous sommes tenus de résister. Nous l'avons lu dans 1 Pierre 5,8. Mais nous devons aussi voir la main de Dieu à l'œuvre pour nous transformer. Il ne s'agit pas de vivre un comportement apathique. Nous ne sommes pas de l'islam pour vivre le fatalisme de la souffrance. Jésus n'est pas inutilement allé au-devant de la souffrance quand on voulait le lapider. David ne s'est pas précipité au-devant de Saül quand il voulait le tuer. Mais David a accepté d'apprendre à voir la main de Dieu derrière ses souffrances. Et c'est là un enseignement pour chacun d'entre nous. À la fois, j'apprends à résister à la puissance des ténèbres avec une foi ferme. Et en même temps, j'apprends à ne pas donner au diable un honneur qui ne lui revient pas. C'est le Seigneur que je veux apprendre à voir dans les situations difficiles qui sont les miennes. C'est ainsi que la souffrance, d'ennemi qu'elle était dans ma mentalité, va devenir une amie sur le chemin de ma croissance spirituelle, de ma transformation à la ressemblance de Jésus-Christ. En refermant ma Bible, permettez que je vous laisse ce message que j'ai sous les yeux. Mon enfant, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Laisse-moi te le murmurer à l'oreille, pour qu'il puisse auréoler de gloire tout nuage de tempête venant à s'élever et aplanir les lieux rocailleux où tu devras peut-être marcher. Il est court, cinq mots seulement, mais laisse-le s'enfoncer au tréfonds de ton âme. Utilise-le comme un oreiller où reposer ta tête, là. Cette chose vient de moi. As-tu déjà pensé à ceci? Tout ce qui te concerne me concerne aussi. Car celui qui te touche, touche la prunelle de mon œil. Tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi je prends un plaisir spécial à te former. Je voudrais que tu apprennes, quand les tentations t'assaillent et que l'ennemi vient comme un fleuve, que cette chose vient de moi. Que ta faiblesse a besoin de ma force et que ta sécurité consiste à me laisser combattre pour toi. Te trouves-tu dans des circonstances difficiles? Entouré de gens qui ne te comprennent pas, qui ne s'enquièrent jamais de tes goûts, qui te mettent à l'arrière-plan. Cette chose vient de moi. Je suis le Dieu des circonstances. Tu n'es pas arrivé là par accident. C'est là même que Dieu voulait te voir. N'as-tu pas demandé à devenir humble? Alors vois. Je t'ai placé à l'école de cette, où cette leçon est enseignée. Ton entourage et tes compagnons ne font qu'accomplir ma volonté. As-tu des problèmes d'argent? T'est-il difficile de joindre les deux bouts? Cette chose vient de moi, car je suis celui qui tient les cordons de ta bourse, et je voudrais te voir puiser en moi et dépendre de moi. Ma richesse est sans limite. Je voudrais que tu mettes à l'épreuve mes promesses. Qu'il ne soit pas dit de toi, dans cette circonstance, tu n'as pas eu confiance en l'Éternel, ton Dieu. Traverses-tu une nuit de chagrin? Cette chose vient de moi. Je suis l'homme de douleur et habitué à la souffrance. J'ai permis que les réconforts terrestres te fassent défaut, pour qu'en te tournant vers moi, tu puisses obtenir une consolation éternelle. Désires-tu accomplir une grande œuvre pour moi, au lieu de quoi tu te trouves cloué à un lit de souffrance et de faiblesse? Cette chose vient de moi. Je ne pouvais attirer ton attention quand tu étais tellement occupé. Et je veux t'apprendre quelques-unes de mes leçons les plus profondes. Ils me servent aussi ceux qui attendent patiemment. Certains de mes plus grands ouvriers sont ceux qui sont exclus du service actif pour apprendre à manier l'arme de la prière. En ce jour, je place dans ta main ce pot d'huile sainte. Fais-en librement usage, mon enfant. Que toute circonstance survenant, tout mot qui te blesse, toute interruption qui te rendrait impatient, toute révélation de ta faiblesse en soi, ouin, la douleur passera à mesure que tu apprendras à me voir en toute chose. Seigneur, merci pour l'encouragement. C'est vrai, nous sommes appelés à te suivre et à te servir dans un monde hostile. Mais merci, parce que tu fais, toi, dans ta souveraineté, de cette hostilité, ton allié, pour te glorifier, pour nous former, pour nous transformer, pour nous donner un témoignage fécond, pour triompher. Tu as eu le premier mot de l'histoire des hommes, tu en auras aussi le dernier. Donne-nous, Seigneur, de nous réconcilier avec les situations qui sont les nôtres. Apprends-moi à voir ta main dans mes circonstances. Je te bénis de ce que tu te serves de la puissance des ténèbres comme une ménagère se sert d'un chiffon pour faire briller un beau meuble. Je veux être ce meuble. Je te loue de tout mon cœur. En Jésus-Christ.